Pour l'anecdote, Hercy Soteropoulos, c'est celle pour qui le journal Le Monde a conseillé à Jean-Claude Juncker de ne pas lire ses livres sous peine de ne pas donner d'argent de l'Europe à la Grèce. Voilà, donc Michel Volkovitch, dont vous avez pu entendre donc l'exposé magistral en introduction, va se prêter au jeu d'accompagner Hercy.
Elle s'appelle Hercy Sotiropoulou. Pour passer la frontière, elle a décidé de franciser son nom, c'est pourquoi elle se présente sous l'identité Hercy Sotiropoulos. J'ai tout à l'heure très brièvement esquissé un tableau du paysage des romanciers grecs contemporains. Donc j'avais parlé des deux patriarches, Komandareas et Valtinos, et j'avais mentionné un trio infernal très impressionnant, trois femmes à peu près du même âge, un peu plus jeunes que moi, disons, et qui cassent la baraque, pourrait-on dire, qui vraiment ont apporté un vent de fraîcheur et de force et d'énergie au roman grec contemporain. Il y avait donc Zina Nazatelli, il y a Ioanna Charistiani et Hercy Sotiropoulos. En ce qui concerne notre thématique d'aujourd'hui, c'est certainement celle qui rentre le plus dans notre sujet. C'est celle dont les livres prennent à bras le corps la réalité grecque, ce que fait aussi Charistiani, que je vous conseille de lire aussi, mais Hercy le fait avec une vigueur, avec une force dans le sarcasme, dans l'invention. Et c'est pourquoi je vais commencer par résumer son parcours en insistant là encore sur les livres qui sont disponibles. Alors, Volkovitch va être nettement moins magistral maintenant parce qu'il n'a rien préparé. La carrière d'un traducteur, vous savez, est pleine d'imprévus. Il arrive par exemple qu'un auteur lui dise au dernier moment « Michel, aide-moi, je ne vais pas y arriver toute seule ». C'est faux. Elle pourrait très bien se débrouiller d'un bout à l'autre. Elle parle très bien français, comme vous allez le voir, mais elle manque de confiance en elle. C'est un mal féminin, comme vous le savez. Hein? On passe leur temps à leur dire « Mais si, tu peux le faire », et elle ne nous écoute jamais. Voilà. Donc, je vais esquisser ce parcours. Elle est donc née, je ne dirai pas la date, c'est dans le programme. Elle a passé pas mal de temps en Italie. Elle vide sa plume depuis un certain temps. Oui. Oui, pas merveilleusement,
pas exactement,
oui,
pas
surtout, surtout maintenant. Et elle a publié jusqu'à présent, alors là je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une bonne dizaine de livres. Il y a combien de romans, Hercy?
Je ne me rappelle plus, mais ce sont 13 les livres.
13 livres, oui, et il doit y avoir, à vue de nez comme ça, 6 ou 7 romans, et aussi des recueils de nouvelles, non moins passionnants, mais comme vous le savez, nos éditeurs ont décidé que les lecteurs ne voulaient pas des nouvelles et n'en publient pratiquement jamais. Donc il faudra un peu attendre pour lire ces nouvelles. Ce que nous connaissons en France actuellement, c'est essentiellement 2 romans qui sont parmi les plus mûrs. Et il nous manque le troisième qu'elle a écrit donc après ces deux-là, qui est en cours de traduction. Tiens, il faudra qu'on en parle de ça. Bon, bref. Donc, la carrière française de Sotiropoulos a commencé il y a maintenant 12 ans avec la parution de Zigzag dans les Orangers. J'aurais souhaité que l'auteur résume, et elle n'a pas voulu. Elle a raison dans un sens, c'est assez irrésumable, puisque ça se passe dans une Athènes quasiment contemporaine. Arrête-moi si je me trompe.
Oui, c'était avant le nouveau millénaire, la dernière année.
Voilà, donc précisément 1999, et nous suivons cinq ou six personnages. Ces romans sont toujours choraux. Hein, il n'y a jamais une figure qui se détache. Il y a un ensemble de personnages et l'action court, rebondit, zigzag entre eux pour donner un portrait de la Grèce actuelle, de Athènes actuelle et au-delà évidemment de l'âme humaine éternelle. Mais on est surtout pris dans ces romans moins par l'âme éternelle que par le quotidien et sa violence. J'aimerais quand même, Ersi, que tu nous racontes au moins quelques bribes de ce roman décoiffant de Zigzag. Alors, les personnages.
Ce sont quatre les personnages principaux. Et c'est août, Athènes, le dernier août de millénaire. Les personnages sont comme en suspense, un peu indécis, un peu comme projetant ce qu'ils vont faire sans faire rien à la fin. Mais ça se passe des choses. Quelqu'un est très malade et va mourir. Quelqu'un d'autre va tomber amoureux. Une petite fille va trouver sa voie. Et son indépendance, vraie indépendance. Et tout ça va changer pendant ces mois.
Voilà, donc il y a dans ce roman des personnages féminins, surtout dirais-je. Pour moi, le livre est dominé par le personnage de la jeune adolescente. Elle a 13 ans. Voilà. Et c'est une petite fille qui observe le monde. Je pense invinciblement à Carson McCullers avec ses personnages d'adolescente, un merveilleux roman américain de Carson McCullers. Elle découvre le monde, ses beautés, ses horreurs, et elle est portée par le désir d'écrire. Elle deviendra écrivain. Est-ce un peu autobiographique, ce personnage ?
Et moi, je pense que elle peut devenir coiffeuse ou elle peut devenir astronaute. L'important, hein, qu'elle va faire ce qu'elle pense qui va lui faire vraiment plaisir. Car ce qui se passe avec cette petite fille, c'est que je crois pour tous nous, surtout maintenant où la culture populaire est très importante, il y a un moment un peu imprécis vers le début de l'adolescence où chacun décide si va suivre les autres ou être avec les autres, devenir très... Πώς λέγεται πολύ το popular, το αμερικάνικο, πώς λέγεται, populaire, c'est populaire, ou sinon suivre ce qu'elle pense, suivre son propre chemin, même avec beaucoup de dégâts. Et là, ce qu'elle fait, cette petite fille, qu'elle décide d'être elle-même. Donc, ça n'a pas d'importance si elle devient écrivaine ou coiffeuse. L'important est qu'elle reste elle-même. Donc, c'est le seul personnage qu'on peut lui faire confiance. D'abord parce que l'autre fort personnage, la sœur mère, dans les livres, car elle a pris cette inconscience, même si c'est petite, elle est petite, cette décision.
D'accord. Donc, on n'a pas tout dit, loin de là. Il y a aussi donc une jeune femme qui se meurt. Il y a un homme jeune, disons, qui lui cherche sa voie et qui traîne.
Qui traîne, il a comme un handicap pour l'action. Il projette, il sent qu'il est le metteur en scène de sa vie, mais à la fin, c'est rien. Il ne se passe rien, ou il se passe des choses, mais il ne se décide pas. Il est quelqu'un qui erre dans cette Athènes horrible, très chaude.
On va reparler de cette Athènes. Il y a aussi dans ce livre du sexe. Oh, on a vu bien plus hard ailleurs. Hein. Ça restait assez modéré et puis tout à fait en situation. Mais ça a créé quand même des problèmes. Et il s'est passé quand même quelque chose qu'on pourrait raconter.
Ah oui, cette histoire.
Oui.
C'est une histoire qui est... Le livre a été accusé de pornographie et a été retiré des librairies scolaires.
Des bibliothèques.
Des bibliothèques.
Textes scolaires. Oui.
Donc, c'était intéressant que la personne qui a entamé ce procès, c'était Constantinos Plevris, qui est comme le gourou de l'Ope Doré.
Oui, tout se tient. Oui. Et finalement, ça s'est terminé comment ?
Ça s'est terminé bien, mais je ne crois pas que le livre est rentré dans les bibliothèques scolaires.
Voilà, donc après Zigzag dans les Orangers, publié par cet homme merveilleux que fut Maurice Nadeau, enfin qui n'était pas un éditeur très très puissant sur le plan économique, Nadeau, vieillissant, n'avait plus envie de publier de littérature étrangère. Et donc, nous avons trouvé un autre éditeur courageux, audacieux, parfois téméraire, Kidam. Et c'est Kidam qui a publié, il y a maintenant peut-être 3-4 ans.
Il faut préciser que, du coup, Zigzag est épuisé.
Ah, il n'existe plus. Oui,
Zigzag est épuisé. Ben oui, à la mort de Nadeau. Ça a posé un problème éditorial. Je ne sais pas où ça en est. Les dernières années, Nadeau était un peu chaotique sur le plan de la gestion. Et maintenant qu'il est mort, on se sent tous abandonnés. Et les problèmes, la reprise de la maison d'édition est un petit peu lente, disons. Mais enfin, on peut toujours espérer. Donc, Kidam publie The Mazandas Toctinos, traduit à peu près littéralement par dompter la bête. Dompter la bête. Ah, qu'est-ce que c'est la bête ? Merci. Allez, allez, courage, courage. Ils sont pas méchants.
Peut-être la bête intérieure. Intérieure. Peut être extérieure aussi.
Oui, 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 oui. Il n'y a pas aussi.
C'est le taureau de la tauromachie.
Voilà.
C'est le taureau de l'écriture.
Voilà. Voilà. Alors,
c'est le taureau du sexe.
Donc, maintenant, on va quand même vous raconter un peu l'histoire, hein, comme font les critiques dans les journaux, vous savez. Donc, alors, les personnages, cette fois-ci, ça commence toujours par les personnages, car là aussi, il y en a un certain nombre à égalité. La différence, c'est que peut-être la palette est plus ouverte sur le plan des âges.
En fait, au début, j'avais l'idée d'écrire une novella, sur le parcours que fait quelqu'un qui traverse Athènes deux fois par jour de son bureau, lui, au nord d'Athènes, dans les banlieues riches, vers Athènes et le retour. Et pendant... Donc, ce n'était pas le projet d'un roman. Ça partait, c'était une heure et demie, quelquefois, quand il y a trop de trafic. Et ce qui m'intéressait, c'était pas seulement ce qu'il traverse, des manifs, des histoires, des fous, de tout ce qui se passe, mais aussi les parcours intérieurs, car comme il y a beaucoup de temps mort où il ne peut rien faire, c'était aussi qu'est-ce qu'il pense, comme il revient en arrière, les flashbacks, tout ça. Donc ça est parti comme un parcours, mais petit à petit, sans le vouloir vraiment, car finalement le livre m'a pris plus de 5 ans, des autres personnages sont entrés dans ces balles, et c'était 3 générations. C'était le fils, l'homme, qui était l'homme, le personnage principal, le fils, la mère, la femme, la maîtresse, et tout le petit monde autour de cette histoire. Et lui, qui c'est un homme de gauche, qui a été de gauche, qui a beaucoup de points avec moi comme parcours de vie, qui a fait ses études en Italie, qui était gauchiste, et puis est une génération qui se connaît très bien, là que ici, après, maintenant en France, on appelait la gauche caviar. Mais moi, je l'aime beaucoup, je veux dire, car toutes les fois que j'allais dans les lectures, le public, et surtout les femmes, détestaient le type. Moi, je l'aime, je le défends, je le comprends très bien. Et lui, en fait, il va fêter ça, c'est Quentin, pendant le livre. Il a eu des postes assez importants. Maintenant, quand on commence à lire, il est un peu déclassé. Et il cherche de prendre une distance avec ce qu'il fait. Mais son grand rêve et sa grande ambition est de devenir un poète reconnu. Et aussi écrire quelque chose de vraiment, vraiment original et bien.
Ce qui me touche, non seulement dans ce personnage, mais dans toute l'œuvre de d'Hersi, c'est qu'elle a l'air de taper fort sur ces personnages. Ils peuvent paraître grotesques. Ils ne sont jamais, en fait, caricaturés. Ils sont insaisissables. Comme les êtres vivants, c'est-à-dire qu'ils peuvent paraître odieux, ridicules, et en même temps, il y a toujours chez eux une secrète beauté, il y a quelque chose qui les rachète. Et je crois que le meilleur exemple, c'est ce politicard arrivé qui est, quoi qu'elle dise, violemment ridiculisé dans certaines pages, et qui, à d'autres moments, nous séduit, nous désarme. Il y a en particulier un passage où il réalise enfin son rêve, celui d'abandonner ses tâches politiques pour se mettre à écrire enfin. Donc il s'isole et là il est dans l'extase de l'écriture quand ça marche. Et c'est indissolublement ridicule parce qu'on sait que le résultat va être nul, on le pressent, et en même temps c'est d'une beauté, c'est d'une émotion rare. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, bon. Et donc, continuons avec ces personnages vus sous le même angle. Il y a le fils, le jeune, qui a 16 ans.
Le fils, oui.
16 ans, oui. Il a des côtés assez négatifs. Il traîne lui aussi, il est admiratif d'autres adolescents, mais sans rien faire lui-même, il se laisse entraîner, puis en même temps il est très attachant.
Il est très, très attachant et très tendre.
Voilà.
Il est le lien avec la grand-mère.
Avec la grand-mère, on va parler de la grand-mère avant. Oui, bah parlons-en. La grand-mère qui passe son temps à regarder les feux de l'amour à la télévision, à essayer de picoler dans la bouteille qu'on essaye de lui cacher. Et elle aussi, inexplicablement, on se met à l'aimer et à se ranger de son côté. Et puis il y a le personnage du jeune voyou qui s'amuse à casser des voitures, à faire du rodéo dans les rues, à emboutir les voitures des bourgeois, qui est d'abord, par certains côtés, antipathique, Et tout d'un coup, il y a une scène, très belle scène d'amour, où lui aussi nous fait craquer. Voilà. Je pense que nous avons donné une image à peu près présentable de ce roman. Et il faut ajouter aussi que Hersi, vous l'avez déjà compris, écrit très lentement parce que elle saigne sur chaque phrase, comme notre Flaubert. C'est merveilleusement écrit. Elle trouve toujours le bon tempo, le bon rythme de l'émotion, et c'est d'autant plus difficile que le tempo change tout le temps. Ce qui fait le charme, la force de ces romans, c'est aussi leur côté fuyant, leur vivacité extrême. Je voulais dire autre chose sur Dompter la Bête, ça me reviendra peut-être. Et nous allons passer maintenant plus brièvement sur le roman suivant, Ève. Là, peut-être, vas-tu accepter de nous dire très généralement ce dont ça parle.
Et ça se passe la veille de Noël. Une jeune femme sort d'une boîte de nuit. Son mari est déjà parti. Elle est en train de chercher un taxi, mais finalement, elle prend le taxi. C'est clair qu'elle ne veut pas rentrer chez elle. Et pendant cette nuit, où elle est dans une partie d'Athènes, qui c'est la partie plus dark, mais où il y a même des galeries, il y a des choses, mais c'est, il y a, on peut aller là, mais seule la nuit, c'est comme ça. Donc, elle fait des rencontres, et en même temps, beaucoup de choses se passent dans sa tête à partir d'un baiser qu'elle a eu dans les toilettes au club. Et on arrive au matin.
Donc une nuit à Athènes. On va en reparler dans un instant, mais j'aimerais avant que tu nous dises ce que tu écris en ce moment et pourquoi.
À ce moment qui se dit depuis 4-5 ans. C'est sur le court séjour de Constantin Cavafy en juin 1897 à Paris, où il est passé. Donc, c'était quelque chose que j'avais, quand j'ai travaillé à Rome, j'avais organisé il y a longtemps, en 1984. Une exhibition à Palazzo Venezia dédiée à Constantin Cavafy. Et là, j'avais découvert qu'il avait passé très brièvement de Paris cette année-là, fin de siècle. Un moment très intéressant pour Paris aussi, car c'était le temps de... Il y avait Toulouse-Lautrec, il y avait tant de choses, Montmartre, Proust, Anatole France, il y avait tout. Donc, il y avait presque très peu de choses sur ce passage. Donc, à 84, je disais moi-même, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il a fait là? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, puis, j'ai rencontré à travers sa vie, sa femme, etc. J'ai vu des choses, mais il y avait, c'était surtout des programmes de théâtre et des petits memorabilia que je pense qu'il avait pris pour ramener à Alexandrie, pour sa mère surtout. Et je revenais sur ça, et je n'écrivais pas rien. Puis j'ai commencé à me... Là, je parlais un peu comme aussi de la manière dont je travaille. J'ai commencé à faire une recherche, à me documenter. La documentation était très lourde. Je me documentais pour des années et des années. Paris, Grèce, Cavafy, ça. J'ai voyagé, je me rappelle, l'année dernière, je suis arrivé à Saint-Nazaire pour une résidence avec presque 60 kilos de livres. Et à un certain moment, j'ai compris, et toujours je n'écrivais rien. J'avais 2 ou 3 lignes écrites. Donc j'ai compris à partir du moment que là, toute cette documentation, c'était comme une justification pour ne pas écrire. Et avec peine, je me suis mise. Et maintenant, c'est parti, c'est bien. Packard prend une... Et ça, c'est intéressant quand on écrit. Et je crois que ça doit être valable pour tous les écrivains ou poètes. Et quand ce qu'on écrit prend une liberté, une indépendance par rapport à vous. Donc, est parti complètement. Ça, c'est bien.
Très bien. Nous allons revenir maintenant à Eva. Vous allez comprendre pourquoi ce petit détour. Parce que je voulais maintenant qu'on se recentre un petit peu sur la crise. Avec ce roman cavafien, on en est très loin, évidemment. Enfin, encore que, tout est possible. Mais...
Tu sais... excuse-moi de l'interrompre, mais il y a beaucoup d'affinités. Beaucoup. Il y a des affinités que je découvre petit à petit. Avant tout, les Jeux olympiques en Grèce, 96. 96.
Oui.
Là, à Paris, c'est les guerres gréco-turques à Crète, grand flop, grande déception aussi. Il y a la Grèce en tête. Elle devient. En ce qui concerne la Grèce, il y a beaucoup de similarités. C'est extraordinaire, ça.
On n'y échappe pas.
On n'y échappe pas, on se répète.
Alors, en ce qui concerne Eva, on se rapproche quand même chronologiquement. Et ce qui m'a frappé, c'est d'entendre certains Grecs dire, et de le ressentir moi-même, que dans ce livre, il se passe quand même quelque chose d'inhabituel. C'est-à-dire que Athènes a changé. Tu décris dans ce livre quelque chose de nouveau.
Athènes est changé.
Oui, que Athènes a changé. L'Athènes de Eva, ce n'est plus l'Athènes qu'on a connue avant.
Ce n'est pas l'Athènes des zigzags, ce n'est pas l'Athènes.
Non, on parle de Eva.
Oui, oui.
Alors, Athènes de Eva, c'est quoi?
Athènes de Eva est déjà. Maintenant, il change encore. Athènes d'Eva, c'est une ville parallèle, comme cachée, comme une ville dans les catacombes, qu'elle va vers cette ville sinon. Et là, on se rend compte qu'il y a des villes, des quartiers à côté de nous, qu'on ne connaît rien, des gens. Mais ce qui se passe maintenant en Grèce, au centre d'Athènes, est-ce que cette ville cachée, au temps d'Eva, maintenant, c'est comme déferlé, comme un vomissement qui est sorti, qui en est partout. Donc, déjà, à Eva, on est changé encore.
D'accord. Tu as dit à l'époque de Eva que Athènes, pour toi, était une espèce de monstre, donc la bête dont on parlait, qui avait des aspects horribles, mais aussi un aspect sympathique qui était son extrême vitalité.
C'est l'énergie. Alors, je trouve qu'Athènes, ça vaut la peine de venir à Athènes. Il y a une énergie. Il y a... Non, je ne veux pas faire des advertisement touristiques, mais c'est une ville avec une grande énergie où il se passe beaucoup de choses. Comme tu as dit avant, on n'imagine pas combien de théâtres, même dans ces zones qui sont mortes d'Athènes. Des petites galeries, des théâtres, des choses. Par exemple, il y avait maintenant un festival international de tatouage où il venait de tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent. Et il y a une jeunesse qui parfois on a l'impression que comme s'ils tournaient leur dos à la crise. Et ils font des choses. Même sans rien, car il n'y a pas de subvention, il n'y a rien de la part. Ils font beaucoup de choses.
Tu avais un petit texte.
Mais peut-être ça ne vaut pas la peine. Mais non, on a discuté de ça. Non.
Oui.
Non, tu vois. Non, va lire, on finit. C'est mieux que quand on va vite. Sinon, on devient...
Bien, donc nous allons évidemment lire.
Non, mais c'est pas très intéressant.
Un petit bout.
Non, c'est dit. La seule chose que je vais lire, qui c'est pas de moi, mais c'est très intéressant, parce que c'est de Nanos Valaoritis. Και Νάνος Βαλαωρίτης ήταν poète grec και ήταν ami de Breton qui a vécu en France, qui a vécu à Paris, à Los Angeles pour des années, etc. Qui a 93 ans, comme je dis maintenant, que sa tête marche très très bien, mieux de la mienne. Donc, lui, il me racontait. Νάνος Βαλαωρίτης, donc, disait. Que l'occupation, pendant l'occupation allemande, en 41-44, qui était bien pire que maintenant, on doit l'admettre, il y a pire, quand les gens mouraient de faim et les rues étaient pleines, j'en sais de cadavres, là, à ce moment-là, ont été écrits les poèmes les plus importants du mouvement moderniste et surréaliste. Par exemple, Amorgos de Gatsos, Bolivar de Nikos Egonopoulos et plusieurs des meilleurs poèmes d'Odyssée Elites du prix Nobel ont été écrits à ce moment-là, un moment de terreur. Et ce que moi je trouve extraordinaire dans ça, c'est que ces poésies, ces poèmes-là, ne parlaient pas de la faim, de la misère, ne décrivait pas l'horreur de chaque jour, mais ils étaient d'une extase lyrique et originale, des élans érotiques et amoureux, sans aucune barrière. C'est intéressant ça, car dehors c'était vraiment, vraiment l'horreur, avec les cadavres partout. Donc, ça c'était comme une petite leçon. Car les mots, la poésie, aident pas seulement à survivre, à vivre aussi. C'est Nanos, c'est pas moi.
Oui, alors justement, tu as écrit de la poésie, tu as publié un recueil de poèmes au moins. Tu n'as pas envie de continuer d'en écrire?
La poésie m'a abandonné. Non, j'écris de la poésie, des poèmes encore, mais soit qu'il... beaucoup moins qu'avant, mais soit qu'il reste comme ça, soit qu'il... Mais d'abord, tu sais, on va sortir en espagnol tous les poésies, tous mes poèmes, en grec et en espagnol. Mais c'est, d'une partie, des poèmes vont vers la poésie visuelle, donc sont plutôt des tableaux que des poèmes, ou très souvent, j'utilise des vers dans... Incorpore des vers entiers dans la prose.
Voilà. Et tu as un personnage au moins qui écrit de la poésie.
Ah oui, ça, que moi j'aime beaucoup. pas la poésie, le personnage. Non, car je crois que ce que j'aime en lui, vraiment, c'est qu'il... Que quand il devient ridicule, il accepte qu'il est ridicule. C'est difficile, ça.
Tout à fait. Ton mari, Michel Demopoulos, qui parle lui aussi parfaitement français, et peut-être le grec qui connaît le mieux le cinéma mondial, et, enfin mondial, le cinéma grec en tout cas.
C'est une encyclopédie vivante.
Voilà. Est-ce qu'il t'entraîne au cinéma? Est-ce que tu suis le cinéma grec qui est d'une richesse aussi remarquable?
Il y a le cinéma grec, on a eu de belles surprises les derniers temps, des choses très intéressantes.
Fait avec
là aussi, la crise était plutôt bénéfique.
Oui, on se demande comment ils trouvent l'argent, mais moi j'ai vu des films de jeunes réalisateurs vraiment épatants.
Et il paraît que le dernier film de Coutre, c'est lui qui avait fait Stella, qui est passé maintenant en Cannes, c'est très bien. Ça, il y a des choses. Je comprends, difficile pour de se détacher d'Angelopoulos, que vous allez voir ce soir. Mais ils sont partis bien, ils sont Bien. Et pas seulement les noms Athina Tsagari, L'Anthimos, etc. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Il y a des courts-métrages aussi très intéressants.
Traduire Hercy Sotiropoulos, c'est passionnant. C'est un mélange de rodéo et de corrida. Elle a des idées très arrêtées, moi aussi, et donc cela donne lieu à de belles empoignades qu'on peut qualifier d'homériques par mail, par téléphone. Comment fais-tu pour me supporter?
C'est que je vais écrire cette scène quand nous étions ensemble à cet horrible café devant la gare Montparnasse, où je t'ai dit, soit tu acceptes ce que je dis, ou je me mets à pleurer, ou je me mets à hurler. Et lui, comme un ange. Mais je vais parler de ça avec Carole. Ok, là, on...
Voilà. Mais on s'aime encore.
Mais on s'aime toujours.
Moi, je serai prêt à continuer. Enfin, le prochain roman, ce n'est pas moi qui le traduirai.
Mais pas à cause de moi.
Pas à cause de toi, non, pas à cause de toi, mais le directeur des éditions Grasstock avait une jeune amie nécessiteuse et c'est elle qui fera la traduction. Je me force pour le dire parce que je suis gentil, mais je ne veux pas non plus me donner une image trop idéalisée. Voilà, je suis aussi méchant. Et je crois que pour traduire, il faut être gentil, il faut être à l'écoute, puis de temps en temps, il faut être méchant. Donc...
Il est antipathique car il croyait qu'il était. C'était sa conviction. Il aimait la femme. Michel aimait sa femme.
Il a renoncé à ses idéaux de jeunesse.
Comme tout le monde.
Il les a trahis. Pas comme tout le monde.
Un peu. On a mis de l'eau dans le vin par rapport à ça. C'est pas que je ne sens pas que j'ai trahi, mais les temps sont changés. Et il n'y a pas la même force vitale pour faire des choses. Et beaucoup de fois aussi, et je l'admets, je pourrais maintenant faire des choses. Et je dis, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis je ne fais rien. Et on passe à travers les gens qui disent, j'ai faim. Je fais plus vite pour entrer chez moi parce que j'en ai jusqu'ici. Je suis sincère, c'est ça.
Mais il est corrompu, c'est un politicien.
Non, on tente de le corrompre. Il n'est pas corrompu.
Mais en même temps, il est très attachant, mais c'est ça qui fait sa valeur.
Il n'est pas
oui, bien sûr. Voilà. Et bon, c'est finalement pas si fréquent que ça, de trouver ça dans les romans, un tel équilibre entre le bon et le moins bon côté des êtres. Voilà, ça demande un grand talent et une grande empathie, justement, pour sentir toujours ce qu'il y a de bon dans les êtres, ou de déceler ce qu'ils ont de mauvais quand ils paraissent trop bons. Voilà, et c'est pour ça qu'on l'admire, et c'est pour ça qu'on l'aime. Nous pourrions... Bon, qui veut continuer à torturer Hercy Sotiropoulos?
Mais peut-être on lit et après on voit, ou sinon on finit.
Non. Je sens une question là, je la sens qui vient. Oh là.
Donc, ce que vous...
ce que vous voulez, c'est une édition bilingue, en quelque sorte. Voilà. Alors, on va en parler, l'édition bilingue. Ah, Jean-Yves. Oui. Bon, juste un mot. J'ai entendu, on était avec Jean-Yves Masson il y a 2 jours à une autre réjouissance, un autre public, et il a fait un très brillant et très convaincant éloge de l'édition bilingue. Je suis un peu perplexe. Personnellement, je préfère que mon texte, ça paraît prétentieux, que mon texte apparaisse seul, parce que le danger dans l'édition bilingue, c'est que la lecture de ce qui quand même essaye d'être un poème devienne un exercice linguistique. À savoir qu'on regarde le poème, on va à la traduction, on revient, et dans ce va-et-vient, la poésie risque d'être perdue. Alors je sais que ça se discute, je sais que je ne convaincrai jamais les partisans du bilingue, j'ai une solution qui vaut ce qu'elle vaut. Dans l'anthologie dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai dite moi-même, j'ai fait le choix du monolingue, parce que le bilingue m'aurait contraint à diminuer de moitié le nombre de poèmes en grec. Et d'autre part, pour un petit éditeur artisanal, la saisie des textes grecs pose des problèmes délicats, sans parler des problèmes de droit. Alors, ma solution de remplacement, c'est que le livre est vendu en monolingue et le lecteur a la possibilité de recevoir, d'acheter, non, vous n'y êtes pas du tout, de recevoir gratos un PDF, il suffit d'écrire à mon adresse mail, et de recevoir gratos un PDF avec une bonne partie des textes traduits en VO. Comme ça, ça satisfait un peu la chèvre et le chou, sans occasionner de dépenses supplémentaires. Voilà. Cela dit, je reconnais aussi que le bilingue, lui aussi, a ses vertus et ses charmes. Ça arrive souvent dans la vie qu'on soit perplexe, hein, qu'on ait du mal à peser. Ai-je répondu ?
Dans cette mesure-là que je dis, cet exercice est périlleux pour le traducteur.
Alors évidemment, le traducteur, lui, il sent que sa traduction est fliquée par le texte original, voilà, et il sait que le lecteur... pas toujours bienveillant, va se chercher à la petite bête. Ah là, est-ce que c'est vraiment comme ça? Et il faut savoir que quand on traduit, on ne traduit pas mot à mot. On ne traduit pas des mots, on traduit des phrases. On ne traduit pas des phrases, on traduit des textes entiers. Et donc, pour qu'une traduction soit précise, il faut qu'elle soit lexicalement imprécise. Parce que l'important, c'est moins les mots que l'impression qu'ils produisent. Et donc, si la traduction est fidèle, si elle réussit, c'est de façon globale. Ça entraînera des modifications plus ou moins grandes. J'ai donné un bon exemple tout à l'heure avec Les Immondices. Voilà. Ça, c'est peut-être le degré extrême de ce qu'on peut se permettre. Mais ce qui m'aide à le faire, à oser le faire, surtout quand l'auteur est là et que généralement il est d'accord, c'est que quand un auteur s'auto-traduit, on s'aperçoit qu'il change énormément. Parce que on n'écrit pas tout seul. On écrit forcément avec une langue, en collaboration avec une langue. L'auteur est... sa langue, c'est comme le cheval et le cavalier. Il y a des choses que le cheval n'a pas envie de faire, on essaye, mais ça marche pas, donc il faut peut-être mieux le laisser partir. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on fait ensemble. Et quelquefois, on bute sur quelque chose dans une langue, quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, mais dans une autre langue, c'est facile. Donc, le traducteur, il doit jouer avec sa propre langue. Il doit se permettre dans sa propre langue ce que l'auteur dans son autre langue ne pouvait pas faire. Et la difficulté, c'est d'imaginer, de se mettre dans la peau de l'auteur. Par exemple, quand si je traduis Cavafis, je vais me dire, bon, s'il avait été avec les moyens du français, qu'est-ce qu'il aurait fait là? Est-ce qu'il aurait profité de cette de ce que le français m'autorise. J'ai un exemple récent, un poème de Dimitris Dimitriadis. À un moment, c'est un texte qui joue beaucoup avec les répétitions, avec les rimes intérieures et tout ça. Et le français m'a proposé, m'a donné tout cru, tout cuit, une rime assez frappante, tout ça. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'à ma place, tu aurais fait comme ça? Il me dit, mais oui, 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 profitons-en. Voilà.
Je propose qu'on reviendra sur cette question de la traduction à partir d'un exemple très précis dimanche après-midi, parce que Thanasis Anzoukoulos, son recueil de poésie traduit, publié en français et en édition bilingue. Ça sera intéressant parce que vous reveniez sur notre propre exemple.
Donc, je veux faire une remarque en ce qui concerne le temps de tous ces récits, romans. Il s'agit toujours d'un temps suspendu, d'un temps un peu la fin de la du XXe siècle, Cavaf et la fin du XIXe siècle. Oui, et aussi l'août, c'est la fin de l'été. Un moment un peu suspendu entre deux autres moments. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur cela. Parce que tout, aussi, c'est la veille de Noël. Cette femme qui, c'est le moment de revenir à la maison, chez elle, mais elle ne décide pas. Donc, c'est toujours un moment suspendu entre deux temps, deux autres temps. Donc, je veux, parce que je crois que la prose a beaucoup à faire avec le temps, et la poésie aussi, mais la prose, et je veux faire un commentaire.
Sincèrement, c'est passé. C'est comme par hasard que c'est arrivé, je veux dire. C'est par hasard, c'est pas hasard. Mais maintenant, tu parles comme psychanalyste. Mais c'est comme, tu sais, c'est Eros et Thanatos. C'est ça. Pour moi, par exemple, août, c'était ça. C'était ça carrément. C'était dans cette Athènes qui était en sueur. Aussi vidé, abandonné par beaucoup d'habitants, c'est ce personnage comme si un errant, l'autre qui meurt d'un virus imaginaire, et en même temps un grand désir d'être aimé, désir d'être touché. D'être...
Mais aussi l'autre qui est dans la voiture et pendant cette une heure et demie, où il se trouve devant sa vie intérieure. Donc, devant sa vie intérieure, son intériorité, donc ses pensées, ses rêves, etc. C'est toujours comme ça, hein. C'est un moment suspendu.
Qu'est-ce que je peux faire?
Je ne sais pas. C'est toi à répondre, hein. C'est à toi.
Mais sincèrement, c'est pas quelque chose à qui ça fait partie d'un projet, d'une sorte de stratégie. Vraiment.
Je parle pas de stratégie. Non, je parle de commentaires d'après coup.
Oui, 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 je vois. Je vois. C'est comme ça.
Mais vous n'êtes pas en désaccord avec son propos. Vous n'êtes pas en désaccord avec le constat de Thanasis.
Je vais continuer sur cette direction parce que ton premier livre, c'est pour ce 3 jours à Yannen. Donc c'est aussi un temps très précis. Hein. Un couple qui se trouve dans un hôtel pendant 3 jours d'une vacance, d'un week-end long. Donc,
et il commence à la manger.
Oui, mais c'est comme tu as commencé par une histoire comme ça autour du temps. Hein.
Quelqu'un qui est critique doit s'occuper de ça, pas moi.
Vous
Oui, un auteur n'est pas tenu de faire son auto-analyse et de se décortiquer.
Là-bas, moi, j'ai une autre idée que doit faire une auto-analyse parce que c'est la seule façon pour aller plus loin dans son œuvre.
Le traducteur, en revanche, lui, est obligé davantage d'avoir recours non seulement à l'instinct, mais à l'analyse, puisqu'on est devant le texte de quelqu'un d'autre, et que donc il faut toutes les armes, c'est-à-dire celle de l'intellect et puis celle de la sensation. Mais je dois dire que, comme pour l'écriture proprement dite, la traduction est en grande partie une affaire du sensoriel, quoi, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça, on ne sait pas pourquoi. Bien qu'on essaye à tout prix de rationaliser, de comprendre ce qui se passe. Et c'est bien comme ça.
Je propose qu'on en vienne au texte, alors. Donc l'idée, c'est que Hercy va lire le début du passage en grec, du passage que va lire ensuite... Pardon ? Oui, oui, le début, le tout début. Oui. Et ensuite, Baptiste lira tout un passage de Dompter la bête, qui est plutôt vers le début du livre, du roman. Voilà.
Donc, j'ai lu...
Dompter la tête. La bête qui est chez Quidam, donc qui est disponible, hein, celui-là, sans problème. Il est à la librairie, oui.
Οι επόμενοι μέρες ήταν επόμενοι. Ελαφρύς πονοκέφαλος, δύο λοναρίτ, ντους καυτό παγωμένο και πούτσος μελάτος στον καθρέφτη του μπάνιου.
La journée d'après, comme prévu. Léger mal de tête, deux lonarid, douche brûlante puis glacée que Molette dans le miroir de la salle de bain. Carla était partie. La maison était vide. Harris cria « Mufinda !» en espérant que personne ne répondrait. Pas de Mufinda. Elle devait faire des courses. Il alla tout nu dans la cuisine, se prépara un espresso, prit le bol aux biscuits et s'assit dans la petite salle à manger. Tout en mangeant, il considéra sa queue qui commença à durcir et la caressa de la main gauche, l'autre tenant un biscuit light. « Qu'est-ce que je fabrique ?» se demande-t-il. « Je suis pourtant droitier. » Il posa le biscuit et s'empoigna de la main droite. « Si je grossis encore, je ne pourrai plus l'avoir, » songea-t-il mélancolique. La pendule sur le frigo indiquait 9h30. Au même instant, il entendit au fond du jardin les Beris soulever la porte du garage, sortir la Mercedes et rentrer sa petite Toyota. « À la prochaine !» se dit-il en donnant une tape légère à sa queue qui se redressa d'un coup. Il alla vers la fenêtre et regarda dehors. Une journée parfaite, ciel pur, transparent. Rouge, noir, vite, rouge, clop, clop, rouge, noir, clop, clop. Il avala, clop, clop, une journée parfaite, limpide et tiède, livrée à elle-même, à la libre circulation de l'avenue. Tous les feux au vert, la voiture glissait, volait, descendant l'avenue qui fissiasse vers Athènes, ce bourbier. Il but une gorgée de café, consulta le fichier ouvert sur son ordinateur. Sans lunettes, les lettres formaient des fourmilières dans les coins de l'écran, les mots se changeaient en taches grises. Il regarda dehors de nouveau à travers les vitres teintées. Rouge, noir, lèvres rouges vifs et soutifs noirs qui laissaient voir des petits seins bien ronds. L'une des filles le regarda, l'autre non. Il remarqua que son soutif à elle était en dentelle, les seins se reposant sur des lauriers noirs. Encore un peu, il verrait le téton. Plus bas, il les retrouva sous un abribus. Plus tard, elles lui sourirent toutes les deux depuis le toit d'un supermarché. Le panneau flottait contre le pied pâle, une bande de papier décollé coupait le cou de la blonde dont les seins sortaient tout droit de la mâchoire. Derrière les filles, le mont Imet s'étalait pareil à un nid d'araignée, chauve et piqueté d'une armée d'antennes. Il aimait Athènes, la cohue, les crottes de chiens écrasées sur les trottoirs, « va te faire foutre, connard », etc. Une ville moche, plus moche de jour en jour, et lui impatient de se retrouver dans ses entrailles. Tout le monde criait, personne n'écoutait personne. Une ville pour les porcs, fantastique, clop, clop. Et l'acropole, la cerise sur le gâteau, clop, clop. Ces petites colonnes tristes, branlantes, là-haut sur le rocher sacré, pour combien de temps encore ? Ville caméléon. Le palais de la musique et le métro, les deux nouveaux symboles de la fierté nationale. L'idée que bientôt ils crèveraient tous de fierté devant les travaux pour les Jeux Olympiques lui donna le frisson. Et le nouvel aéroport, il y avait encore des gens qui le visitaient, non pour voyager, mais pour admirer les installations. Putain de Grecs. Des petites vieilles, des moutards, des loubards gomineux qui contemplaient les escaliers mécaniques et les counters, pétant d'orgueil, parlant aux journalistes comme s'ils portaient au nu leur nouvelle bagnole. Elle avait, cette ville, une énergie incroyable. Le soir, il était sur les rotules, mais il avait rechargé ses batteries, tandis que sa voiture se faufilait dans les embouteillages et les manifs pour se retrouver glissant librement dans l'avenue Kifisias, le ramenant à son oasis secrète, sa maison, conscient de la chance qu'il avait. C'était une jouissance tout à fait personnelle qu'il n'eût pas avouée facilement à d'autres, ce passage des plaisirs du bourbier au purgatoire de l'avenue embouteillée pour aboutir au calme, à la verdure exubérante, à son canapé, à sa petite femme qui l'attendait avec un bon petit plat. Dans ma vie secrète, je suis beaucoup plus animal, pensa-t-il, satisfait. Pendant le trajet, d'habitude, il travaillait à l'ordinateur, lisait les journaux sans un regard pour l'extérieur. Mais il y avait certains matins comme celui-ci, différents. De ces matins où tout roule, tout baigne. Sa peau était tiède, son cœur battait sans s'affoler, sans but prédéterminé, sans qu'il l'eût souhaité, le monde entier semblait son allié. Tout cela venait-il de sa seule bonne humeur ? Pas sûr. Il y avait quelque chose là-dessous, sa brillante destinée. On eût dit que tout, jusqu'au moindre détail, depuis le bonjour du chauffeur jusqu'à la circulation dans les rues, s'accordait pour l'accompagner harmonieusement vers son bureau. Sa brillante destinée n'était pas un but, le résultat d'une stratégie. C'était plutôt un état des choses, une coïncidence favorable. Clop, clop. Sa secrétaire, Imoyeni, travaillait à son bureau depuis 7 ans. Et chaque matin, elle appelait sa mère grabataire, qui avait une passion pour un présentateur télé du matin. Pendant ces 7 années, le présentateur avait essayé toutes les chaînes et leurs présentatrices. À mesure que l'heure tournait, Imoyeni, blonde et défraîchie, baissait peu à peu la voix, craignant le patron et souhaitant conclure avant qu'il n'arrive. « Elle ne peut pas lui accorder le divorce !» s'écria-t-elle, parlant de la troisième épouse du grand homme et voyant le patron entrer, elle sauta sur ses pieds en recouvrant l'écouteur de sa main. « Viens dès que tu auras fini !» dit Harris, et il passa dans son bureau. Il referma la porte derrière lui et gagna la fenêtre. En bas, debout au coin de la rue, un Nigérian vendait des sacs à main. Il discutait avec un jeune qui l'écoutait, hilar. Un peu plus loin, par terre, son torse enveloppé d'un drap, le mendiant sans corps avait commencé sa garde. Sur le balcon de l'immeuble d'en face, un pigeon boiteux tentait de s'envoler. S'asseyant à son bureau, Harris tâta machinalement sa lèvre, encore un peu enflée. « Hier, j'ai téléphoné à 7 heures, » dit-il, dès qu'Imoyeni fut entré. « J'étais là ?» protesta-t-elle. Harris sourit sans un mot. « Je vous ai appelé sur votre portable, mais vous l'aviez éteint, » insista-t-elle sans le regarder en face. « Tu as peut-être dû aller chez le dentiste, » demanda-t-il d'une voix tendre. Il aimait jouer ainsi avec elle, la torturer un peu comme le chat avec la souris. Au fond, peut-être aimait-il Imoyeni plus qu'il ne le croyait. « Laissez-moi vous expliquer. »« C'est bon, » dit-il, coupant court avec un sourire. Le Nigérian s'était assis sur le trottoir et fumait. Le mendiant sans corps lui tournait le dos. Le pigeon boiteux avait enfin réussi à s'envoler. Il avait peut-être le temps finalement de retrouver Penny à l'appart en fin d'après-midi. Mais pour l'instant, il devait se préparer pour le rendez-vous avec Takopoulos, qui lui avait demandé un tas de détails sûrement inutiles. Et d'abord, il avait ses coups de fil à terminer. Il consulta la note laissée par Imoyeni. C'était le moment le plus ennuyeux de la journée. Il comptait bien expédier cette corvée dans l'heure. Ensuite, il devrait choisir les poèmes pour la soirée poétique. L'initiative du président de l'Union des écrivains l'avait d'abord beaucoup flatté, même s'il n'était pas assez naïf pour la croire motivée par l'admiration pour son œuvre et dénuée d'arrière-pensée. Son dernier recueil, « Les tambours de la défaite », avait paru 12 ans plus tôt. Et combien de poèmes avait-il publié depuis ? 3. « Il attend quelque chose de moi, ce lécheur », se dit-il. La date était arrêtée, on imprimerait les invitations dans quelques jours. Deux jeunes comédiens feraient les lectures et lui-même pourrait lire quelques poèmes s'il voulait. Et s'il le voulait aussi, avait dit le président, on aurait un accompagnement musical, du classique évidemment. C'était l'usage ces derniers temps. Le président, un avocat gluant qui puait de la gueule, avait souri en disant « ces derniers temps », comme pour souligner qu'Aris était depuis longtemps absent du monde des lettres, ou qu'il n'en était pas digne, ou les deux à la fois. Il ouvrit un tiroir cachant la revue de poésie qu'il avait reçue la semaine passée sans être abonné. Sur la couverture jaune, mal imprimée, une guirlande d'épines encadrait un dieu Pan, joueur de flûte, aux faciès d'enfant mongolien. Démodé tout ça, ces revues, ces types, se dit-il, en feuilletant la revue sans la sortir du tiroir. Les rimes revenaient à la mode. Pauvre con, ses poèmes à lui étaient bien meilleurs. Il referma le tiroir.
Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup, Hercy, Michel Wolfovitch et Baptiste.